Chapitre 13. Ce que nous pouvons faire. Que vous soyez ou non prédisposé au surpoids ne dépend pas de vous. Mais ce que nous enseignent les fondamentaux de la prise de poids, c'est que cette prédisposition est réveillée par les glucides que vous mangez, par leur quantité, mais aussi par leur qualité. Comme nous l'avons vu, ce sont en fin de compte les glucides qui déterminent la sécrétion d'insuline. Et l'insuline est, elle, responsable de l'accumulation de la graisse corporelle. Manger des aliments glucidiques ne nous fait pas tous grossir, mais celles et ceux qui grossissent le doivent aux glucides. Moins nous consommons de glucides, plus nous restons minces. En ce sens, les glucides peuvent être comparés avec le tabac. Certes, tous les fumeurs de longue date ne meurent pas de cancer du poumon, les chiffres sont d'un homme sur 6 et une femme sur 9, mais la cause la plus commune du cancer du poumon est, de loin, la consommation de cigarettes. Dans un monde sans cigarettes, le cancer du poumon serait une maladie rare, comme il l'était autrefois. De même, dans un monde où l'alimentation serait pauvre en glucides, l'obésité serait une maladie rare. Ceci étant posé, il faut préciser que les aliments contenant des glucides ne sont pas tous pareillement générateurs de graisse ou adipogènes. C'est là un point essentiel. Ceux qui nous font le plus grossir sont ceux qui ont le plus grand impact sur notre glycémie et sur notre taux d'insuline. Ce sont les plus concentrés en glucides, et notamment ceux que l'on digère rapidement. Tous les aliments fabriqués à partir de farine raffinée, pain, céréales et pâtes, les aliments glucidiques liquides, bière, jus de fruits et soda, et les aliments riches en amidon, pommes de terre, riz et maïs. Toutes ces nourritures inondent en très peu de temps notre sang de glucose. Conséquence, la glycémie monte en flèche, ainsi que l'insuline, et nous grossissons. Il n'est pas étonnant que ces aliments aient été longtemps considérés comme ne servant à rien d'autre qu'à faire grossir ceux qui les consommaient. J'y reviendrai. Mais dans leur grande majorité, ces aliments sont également les sources de calories les moins chères que l'on puisse se procurer. Cela explique que plus une personne est pauvre, plus elle risque d'être en surpoids. Et également pourquoi, comme je l'ai abordé d'entrée de jeu, des exemples présents et passés de populations extrêmement pauvres présentant des taux d'obésité et de diabète rivalisant avec ceux des États-Unis et de l'Europe d'aujourd'hui sont loin d'être rares. C'était l'explication que supposaient les médecins qui travaillaient avec de telles populations dans les années 1960 et 1970. Depuis, elle a été validée scientifiquement. Dans la plupart des pays du tiers-monde, la consommation de glucides est très élevée, écrivait en 1974 Ralph Richards, le spécialiste du diabète britannique naturalisé jamaïcain. Il est envisageable que la plus grande disponibilité des féculents face aux protéines animales, constituant nécessairement la source principale de calories de ces populations, entraîne une lipogénèse, formation de graisse accrue, et favorise le développement de l'obésité. Les membres de ces populations grossissent, non parce qu'ils mangent trop ou sont trop sédentaires, mais parce que leurs aliments de base, les féculents et céréales raffinées qui constituent la grande majorité de leur régime, ainsi que le sucre, sont adipogènes. En revanche, les glucides contenus dans les légumes-feuilles, tels que par exemple les épinards ou le chou frisé, sont associés à des fibres non digestibles, ce qui ralentit leur temps de digestion et donc d'acheminement vers le sang. À poids égal, ces légumes contiennent plus d'eau et moins de glucides assimilables que des féculents comme les pommes de terre. Il faut donc en manger beaucoup plus pour atteindre le même apport glucidique, et les glucides qu'ils contiennent demandent plus de temps avant d'être digérés. C'est pourquoi notre taux de sucre sanguin reste relativement bas lorsque nous mangeons ce type de légumes. La réponse insulinique qu'ils déclenchent est beaucoup plus modeste, et ils nous font, en conséquence, beaucoup moins grossir. Toutefois, il est possible que certaines personnes soient si sensibles aux glucides que même ces légumes leur posent problème. Bien qu'assez facile à digérer, les glucides des fruits sont en revanche plus dilués, les fruits contenant davantage d'eau, que ceux des féculents. Si l'on prend une pomme et une pomme de terre ayant le même poids, cette dernière aura un impact nettement plus important sur la glycémie, ce qui laisse à penser qu'elle devrait davantage faire grossir. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les fruits ne peuvent pas faire grossir certaines personnes. Du point de vue de la prise de poids, le problème avec les fruits est que leur saveur sucrée provient justement d'un type de sucre, le fructose, qui compte parmi les glucides les plus adipogènes. Or, parallèlement aux efforts de plus en plus désespérés qu'ils font pour endiguer l'explosion de l'obésité, nutritionnistes et autorités de santé publique nous conseillent également de plus en plus péremptoirement de manger non seulement beaucoup de légumes, mais également de fruits. Car, disent-ils, les fruits ne nécessitent aucune transformation mais peuvent être mangés tels quels, Ils ne contiennent ni matière grasse ni cholestérol, mais sont en revanche riches en vitamines, notamment en vitamine C, et en antioxydants, et ne peuvent donc être qu'excellents pour la santé. Cela se peut. Mais si vous avez une prédisposition à prendre du poids, il est très probable que la plupart des fruits renforcent cette prédisposition. Les aliments les plus mauvais pour notre santé sont en effet, avec une très forte probabilité, les sucres, et parmi eux, tout particulièrement, le saccharose, sucre blanc, et le sirop de glucose-fructose. Apparu en 1978, ce dernier avait remplacé le sucre dans la plupart des sodas commercialisés aux États-Unis dès le milieu des années 1980. La consommation annuelle totale de sucre, d'édulcorants caloriques, comme les intitule le département de l'agriculture des États-Unis pour les distinguer des édulcorants artificiels non caloriques, passa alors de 55 kg par habitant à environ 70 kg, les Américains ne s'étant pas rendu compte que le sirop de glucose-fructose n'était rien d'autre qu'une nouvelle forme de sucre. Comme ces deux produits sont pratiquement identiques, je les désignerai parfois tous deux sous le vocable de « sucre ». Le saccharose, c'est-à-dire le sucre blanc que nous mettons dans notre café et dont nous saupoudrons nos céréales, se compose respectivement pour moitié de fructose et de glucose. Le sirop de glucose-fructose, tel qu'il entre dans la composition des jus de fruits, des sodas ou des yaourts aux fruits, contient quant à lui 55% de fructose. C'est pourquoi il est connu dans le secteur de l'industrie alimentaire en tant que HFCS55, avec 42% de glucose et 3% d'autres glucides. Or, c'est le fructose contenu dans ces édulcorants qui leur confère leur goût sucré, comme c'est le cas pour les fruits, et il semble que ce soit également le fructose qui les rende si adipogènes, et donc si nuisibles pour notre santé. Dernièrement, mieux vaut tard que jamais, journalistes et autorités de santé publique, parmi lesquelles l'Association américaine de cardiologie, ont commencé à accuser le fructose, et donc aussi le sucre et le sirop de glucose-fructose, d'être l'une des causes de l'obésité et peut-être même des maladies cardiovasculaires. Mais ces accusations sont principalement motivées par le fait que ces édulcorants sont des calories vides, autrement dit qu'ils n'apportent ni vitamines, ni sels minéraux, ni antioxydants. Or ce n'est pas là que réside le problème, car l'impact négatif qu'a le fructose sur notre santé, notamment en nous faisant grossir, n'est pas lié au fait qu'il soit exempt de vitamines et d'antioxydants, mais à la façon dont notre corps l'assimile. Et il est probable que la saveur sucrée que produit l'association d'environ 50% de fructose et 50% de glucose soit particulièrement adipogène. Lorsque nous digérons des glucides issus de féculents, ils se retrouvent à terme dans notre sang sous forme de glucose. Notre glycémie augmente, nous sécrétons de l'insuline et stockons des calories sous forme de graisse. Lorsque nous digérons du sucre ou du sirop de glucose-fructose, la majeure partie du glucose est transportée dans notre sang où elle augmente notre taux de sucre sanguin, tandis que le fructose est, lui, métabolisé presque exclusivement dans le foie qui possède les enzymes nécessaires à cette opération. Le fructose n'a donc pas d'impact immédiat sur la glycémie ni sur le taux d'insuline. Mais j'insiste sur le terme « immédiat » car il a par contre de nombreux effets à long terme. L'évolution du corps, et notamment du foie humain, ne l'a pas préparé à gérer la charge de fructose qui caractérise l'alimentation moderne. Le fructose est présent en assez petite quantité dans les fruits, pas plus de 60 calories pour 100 grammes de myrtille, par exemple. Cela dit, certains fruits ont été cultivés durant des générations pour contenir davantage de fructose. J'y reviendrai plus tard. Par contre, un grand verre 40 centilitres de soda type Coca-Cola ou Pepsi contient 80 calories de fructose. Et la même quantité de jus de pomme, 85. Pour répondre à ce flot de fructose, notre foie en transforme une grande partie en graisse qu'il envoie vers notre tissu adipeux. C'est pourquoi, il y a encore 40 ans, les biochimistes qualifiaient le fructose de glucide le plus adipogène, car c'est celui qui se transforme le plus facilement en graisse. Pendant ce temps, le glucose qui a été absorbé en même temps que le fructose augmente la glycémie, stimule la sécrétion d'insuline et amène les adipocytes à stocker les calories, quelles qu'elles soient, y compris la graisse générée dans le foie à partir du fructose. Plus nous consommons de ces sucres et plus longtemps ils font partie de notre alimentation, plus notre corps s'y adapte en apparence en les convertissant en graisse. Mais notre schéma de métabolisme du fructose se modifie avec le temps, comme l'explique le Britannique Peter Mays, biochimiste et spécialiste du fructose. Non seulement il génère une accumulation de graisse dans notre foie lui-même, une pathologie connue sous le nom de stéatose hépatique, mais il semblerait également qu'il rende notre tissu musculaire résistant à l'insuline à travers une sorte d'effet domino déclenché par la résistance des cellules hépatiques. Ainsi, même si le fructose n'a pas d'impact immédiat sur la glycémie ni sur l'insuline, il risque, avec le temps, au bout de quelques années peut-être, de causer une insulinorésistance et donc un stockage accru de calories sous forme de graisse. L'aiguille de notre jauge de répartition du carburant pointera alors en direction du stockage de la graisse, même si ce n'était pas le cas à l'origine. On peut supposer qu'une personne qui ne mangerait jamais de ses sucres ne risquerait ni de grossir, ni de contracter le diabète, et ce, même si la majeure partie de son alimentation se composait de glucides issus de féculents et de farine. Cela expliquerait pourquoi certaines populations parmi les plus pauvres de la planète ont une alimentation riche en glucides, sans pour autant souffrir ni de surpoids, ni de diabète, alors que d'autres sont moins chanceuses. Celles qui sont ou étaient dans ce cas, notamment les populations japonaises et chinoises, comptent parmi celles où le sucre jouait un rôle minime dans l'alimentation traditionnelle. Si une personne qui commence à prendre du poids veut arrêter et inverser le processus, ce sont ses sucres qu'elle devra supprimer de son alimentation en tout premier lieu. L'alcool est un cas particulier. Le métabolisme de l'alcool se fait essentiellement dans le foie. Environ 80% des calories d'un verre de vodka, par exemple, sont acheminées directement vers le foie pour y être converties en une petite quantité d'énergie et une grande quantité d'une molécule appelée citrate. Ce citrate alimente le processus de production d'acide gras à partir du glucose. Ainsi, l'alcool accroît la production de graisse dans le foie, ce qui explique sans doute notamment la survenance de la stéatose hépatique alcoolique. Il se peut également qu'il nous fasse engraisser par ailleurs, bien que le fait de stocker ces graisses ou de les brûler dépende aussi de l'absorption de glucides en même temps que l'alcool. En général, nous absorbons effectivement des glucides en plus de l'alcool. Par exemple, un tiers environ des calories que contient une bière classique sont issues du maltose, un glucide raffiné, et les deux tiers restants de l'alcool lui-même. Les abdos crocs en sont la conséquence tangible.